ça et puis.
Non, merci Patrick, une autre fois peut-être.
Ouais. Sinon, dans ma radio digitale, le doigt.
Oui.
On ira très profond dans tous les sujets qui intéressent les gens. Par exemple, t'as Marlène qui animera une émission de cuisine, ça va s'appeler Le doigt dans l'oignon.
Oh non.
Et aussi une émission sur les plus grandes parties fines de la semaine, on refait la mêlée. Et puis aussi, on va faire.
Ah bah non, merci Patrick, on écoutera le doigt.
Ah ouais, bah c'est génial. Ouais. Et côté musique, on a déjà notre tube de l'été sur le doigt. Allez, oh putain!
Ah putain, c'est génial! C'est que de l'amour, c'est que de l'amour. Ah putain, c'est génial! C'est que de l'amour, c'est que de l'amour.
Laurent Gérard et Jade qu'on retrouvera dès lundi à 9h-10. Pour l'heure, vous écoutez RTL et il est 9h.
De tout comprendre, c'est le grand journal de 9h.
Et le grand journal de 9h, c'est avec vous Olivier Bois.
À la une, ces frappes israéliennes qui se poursuivent ce matin en Iran, ça n'est pas une guerre mais une opération de décapitation du programme nucléaire, nous a dit ce matin l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka. Téhéran a commencé sa réplique en projetant une centaine de drones et l'état d'urgence est décrété en Israël.
Mais alors, où en est vraiment l'Iran sur son programme nucléaire? Le gouvernement israélien a-t-il raison de s'en alarmer? RTL vous l'expliquera.
Dans ce journal également, la marche blanche ce soir à 18h à Nogent. En hommage à Mélanie, cette surveillante tuée par un collégien de 14 ans. Et puis l'épreuve écrite du bac de français qui a commencé il y a une heure. Maintenant, Hortense Crépin vient d'avoir les sujets. On va aller tester un peu son niveau.
Et tiens, pourquoi appelle-t-on ça le baccalauréat? Ce sera la question pas si bête, signé Florian Gazan, comme chaque matin.
Nous sommes vendredi 13.
Ah oui.
Il y a 250 millions d'euros en jeu à l'Euromillion ce soir.
Combien de personnes vont jouer? Quelle est la somme la plus grosse jamais remportée? Quelle est la probabilité de gagner, bien inférieure à celle de perdre? On répondra à toutes vos question là encore sur 7 euros millions.
C'est le grand journal de 9h et c'est parti.
RTL matin jusqu'à 10h.
Les bombardements israéliens se poursuivent donc sur l'Iran. Ils ont été massifs cette nuit. 200 avions mobilisés pour viser à la fois des sites nucléaires et des scientifiques de premier plan. 6 experts iraniens dans le domaine ont été tués selon un média du pays. La riposte iranienne a été quasi immédiate avec la projection tôt ce matin d'une centaine de drones que l'armée israélienne est en train de tenter d'intercepter. L'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka, était l'invité d'RTL ce matin pour livrer sa toute première explication.
C'est ponctuel, c'est pour, détruire les capacités nucléaires iraniennes. Une grande partie d'entre elles le sont déjà détruites. Il y a eu 5 vagues d'attaques depuis 3h du matin jusqu'à présent. Vous savez, dans chaque programme nucléaire, il y a 3 éléments. Le premier est un élément de missile. Les Iraniens ont des missiles très développés qui peuvent arriver non seulement en Israël, mais sur une grande partie de l'Europe. Et ensuite, nous avons vu sur le rapport de l'AIEA, que les Iraniens avaient suffisamment de matériel fissile pour un arsenal de 8 bombes nucléaires. Et nous avons eu des renseignements ces derniers temps que les Iraniens développaient des capacités d'armement. Et donc, nous étions obligés d'arrêter ce programme qui était un programme existentiel dangereux. Une grande partie des capacités nucléaires iraniennes ont déjà été détruites. Cette opération peut durer encore quelques jours, mais ce n'est pas une opération de quelques mois ni de quelques semaines.
Nous étions obligés d'arrêter ce programme nucléaire. Voilà donc la première réaction ce matin de l'ambassadeur d'Israël en France. Et à l'instant, l'Iran qui prévient, ses forces armées elles n'auront pas de limites, je cite, dans leur réponse à Israël.
Mais où en est l'Iran sur le nucléaire? Le gouvernement israélien a-t-il raison de s'inquiéter? On va prendre le temps de s'arrêter sur toutes ces questions. RTL vous explique.
Et on fait ça avec vous, Emmanuel Galichet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste du nucléaire, merci d'être avec nous. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, dit que l'Iran aura la bombe nucléaire d'ici quelques mois, un an au maximum. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça vous paraît plausible?
Alors, je suis pas certaine que ce soit possible en si peu de temps. Mm-hmm. Par contre, effectivement, l'Iran est en train d'enrichir la matière nucléaire à un tel pourcentage qu'il sera doté de matière pour construire une bombe. Après, dans une bombe, il n'y a pas que de la matière nucléaire, il y a énormément d'autres choses. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre que l'Iran soit prête technologiquement à avoir une bombe nucléaire.
Mais Israël a quand même raison de s'inquiéter.
Alors oui, en fait, toute la communauté internationale s'inquiète quand même depuis un certain nombre de mois. Il y a beaucoup de pourparlers en ce moment. Il y a eu des réunions bilatérales avec les États-Unis, avec l'AIEA, pour essayer de calmer le jeu, effectivement, sur cette envie d'enrichir très fortement l'uranium de la part des Iraniens. Pour le civil, il faut bien voir que pour une utilisation civile, il faut être en dessous de 20%, ils sont largement au-dessus de 60% aujourd'hui, ce qu'on en sait. Et donc, on voit que Pour aller vers la bombe, il faut être au-delà de 90%. Donc, vous voyez que vous avez encore une marge, mais on est assez inquiet au niveau mondial.
On entend votre inquiétude, Emmanuel Galichet. On a entendu l'ambassadeur d'Israël qui disait tout à l'heure sur RTL que plusieurs sites iraniens avaient été détruits cette nuit. Mais on est un peu dans le flou. Est-ce qu'on sait précisément combien de sites possède l'Iran et s'ils sont tous en capacité ou quasi en capacité de produire des armes nucléaires de grande ampleur, pardon?
Oui, alors on connaît à peu près tous les sites effectivement iraniens. Aujourd'hui, on a des modes d'information qui sont très puissants, donc on connaît à peu près tous les sites. Des armes en grande ampleur, non. C'est pas la matière qui est le plus important. Hein. Évidemment, c'est le missile, c'est le vecteur, c'est la partie plus technologique que la matière nucléaire. Donc, je pense pas qu'ils soient capables de faire des armes en grande ampleur. Par contre, quelques bombes, ils auront en tout cas la matière pour.
Merci beaucoup pour toutes ces explications, Emmanuel Galichet. Et on reviendra, bien sûr, sur cette attaque d'Israël en Iran à partir de 9h15 avec tous nos experts. Georges Malbruno, éditorialiste ici à RTL et qui connaît parfaitement la région. Thierry Coville, qui est spécialiste de l'Iran. Et puis, on sera bien sûr en direct avec notre correspondante en Israël.
L'actualité en France avec cette explosion cette nuit aux alentours de 3h du matin sur un pipeline de gaz à Saint-Martin-de-Crau dans les Bouches-du-Rhône. 180 pompiers sont mobilisés, 5 hectares ont brûlé. L'incendie est maintenant maîtrisé et il n'y a pas de blessés identifiés à l'heure où on parle. Et puis cette marche blanche qui va se tenir ce soir à 18h à Nogent, en Haute-Marne, et en mémoire de Mélanie, la surveillante a été tuée mardi matin à coup de couteau par un collégien de 14 ans et l'adolescent a été placé en détention hier après sa mise en examen. Le patron de Corsair, Pascal de Izaguirre, qui est également président de la Fédération nationale de l'aviation, était votre invité, Amandine, ce matin sur RTL. Vous l'avez interrogé sur ce gouvernement qui charge des milliards, qui a déjà augmenté en mars dernier les taxes sur les billets d'avion. Est-ce qu'il craint, lui, qu'on vienne encore chercher de l'argent dans son secteur? Et que dit-il au gouvernement?
Alors, on leur dit, d'abord, ce qui serait bien, c'est la stabilité fiscale, hein, parce qu'on pénalise un secteur aérien qui fait preuve d'innovation, qui est un élément de souveraineté nationale, de lien social, d'attractivité de la France. Et on leur dit stabilité fiscale et puis accompagner nos propres efforts. Vous savez que les compagnies aériennes ont des investissements considérables à faire en matière de décarbonation. Aidez-nous pour la modernisation des flottes, aidez-nous pour l'utilisation des carburants durables et surtout, et pas de taxes en plus. Exactement.
Pascal de Izaguirre, à la fois patron de Corsair et président de la Fédération nationale de l'aviation. Nous sommes donc aujourd'hui vendredi 13 juin. Il y a 250 millions d'euros en jeu ce soir, l'euro million. Et vous êtes nombreux à tenter votre chance, comme dans ce café parisien où on s'est laissé tenter par la somme.
La somme à gagner a été assez intéressante. Pour le coup, je n'ai jamais vu ça. Donc c'est sûr que ça a forcé la décision. Je suis né un vendredi 13, concrètement. Donc c'est ma superstition à moi.
J'ai toujours eu l'espoir de gagner un peu vendredi. 13. Quand il y a des grosses sommes, ah oui, elle est longue, oui. Ça m'arrangerait bien.
Voilà, 250 millions en jeu ce soir.
Et une question que pose l'Union en une ce matin, le vendredi 13, est-il vraiment un jour de chance? Alors combien de joueurs, quelle est la plus grosse somme jamais remportée un vendredi 13? Est-ce que vous avez vraiment des chances de la gagner, tous ces millions? On va voir tout ça.
Et on va voir ça avec vous, Pierre Coplot, bonjour. D'où vient d'abord l'argent qui est à gagner à l'euro million?
Mais des joueurs eux-mêmes, ce sont les seuls contributeurs de la cagnotte. Lorsque vous payez une grille en France, comme dans les 9 pays partenaires de l'euro million, la somme part dans un pot commun. C'est 2,50€ par exemple chez nous, et l'ensemble des tickets achetés constitue ensuite l'argent à remporter.
Bon, c'est assez simple, mais est-ce qu'on sait combien de personnes tentent ou vont tenter leur chance?
Alors la FDJ ne communique jamais sur ces chiffres. Ceci dit, on estime qu'une vingtaine de millions de joueurs jouent régulièrement à l'euro million. Vous y ajoutez les opportunistes, ceux qui se réveillent les jours de gros lot, comme moi, peut-être, qui sait. Avec eux, on devrait arriver aux alentours des 50 à 60 millions de joueurs.
Pour toute l'Europe, pour le coup, là.
Exactement, oui. C'est ça, pour les 9 pays qui y participent. La FDJ considère qu'il y a 2 à 3 fois plus de joueurs, notamment les jours de vendredi 13.
Et alors, est-ce qu'on connaît le plus gros montant jamais gagné?
Oui, c'est le même montant que la cagnotte du jour, 250 millions d'euros. C'est d'ailleurs le plafond fixé par l'euro million. Et il a été remporté en mars dernier par un Autrichien. En France, le plus grand magot jamais remporté s'élève à 220 millions d'euros. C'était une jeune polynésienne qui l'avait remporté en 2021.
Bon, évidemment, tout le monde rêve de remporter l'euro million, mais admettons, on se projette. Vous gagnez ce soir, Pierre Coplot. Est-ce que derrière, vous devrez poser des impôts? Est-ce que votre revenu, votre gain sera imposable?
Eh bien non, ça va m'arranger, Thomas. Tout va revenir dans ma poche. C'est la FDJ qui le certifie. Quelle que soit la somme gagnée à un jeu de grattage ou d'argent comme à l'euro million, la somme n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.
Mais attention, parce qu'après, si on achète une maison, des châteaux, etc., là, tout de suite, vous devenez imposable sur sur ce que vous avez acheté.
Bien évidemment.
Dans quel pays d'Europe a-t-on gagné le plus de jackpot Euromillion depuis 2004?
Eh bien, d'une courte tête, ce sont les Britanniques qui nous devancent à 4 vainqueurs près. 134 jackpots pour le Royaume-Uni, 130 pour la France. L'Espagne ferme la dernière marche du podium avec 122 chanceux.
Bon, j'envisageais de gagner. Maintenant que vous me dites que les châteaux seront imposables, Amandine, je vais peut-être me retenir. Enfin, est-ce qu'il existe une probabilité de gagner ou est-ce qu'il y a des numéros qui reviennent plus souvent, qui sont souvent gagnants? Ça, c'est vrai ou c'est de la légende urbaine?
Alors, c'est vrai. On a une chance sur 139 millions de tomber sur la bonne combinaison. Ah. Ouais, il y a plus de chances de remporter un Oscar, par exemple, ou de naître avec 11 orteils à chaque pied que de gagner l'Euromillion. Donc, c'est assez compliqué. Et les numéros qui sont le plus souvent tombés sont le 23, le 19, le 44 et le 21. Je vous ai sélectionné les 4 premiers avec chacun plus de 200 tirages. Maintenant, Amandine, Thomas, vous savez quel numéro jouer.
Ah, je ne veux pas la dénoncer, mais Amandine vient de prendre en photo sur votre texte 23, les numéros qui tombent.
19, 44 et 21. Bon, qu'on ne les joue pas tous, s'il vous plaît, ces numéros, parce que sinon, on va devoir se partager la somme.
Et la probabilité qu'ils tombent en même temps est assez compliquée aussi.
Il en quelques millions chacun, ça ira quand même.
Du coup, on vous dit peut-être à lundi, Pierre.
Peut-être. Peut-être. Je ne vous garantis rien.
Peut-être sans doute. Allez, il est 9h10 sur RTL.
Le sujet arrive, plus un bruit, et je vous souhaite une bonne épreuve.
Oula. Allez, on va se creuser la tête ensemble, parce que le bac de français a commencé, les élèves plongent depuis une heure maintenant, 535 000 lycéens en première qui passent donc l'épreuve écrite. Ça ne rigole plus avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
Bonjour à tous.
Alors, comme promis, vous avez les sujets?
Ah oui, alors je vous les donne, je viens vraiment à l'instant de les récupérer.
Vous n'avez pas le plan,
alors exactement. Pour le baccalauréat général, si vous choisissez le commentaire de texte, l'objet d'étude, c'était le roman et le récit au Moyen-Âge, avec un commentaire du texte L'Ensorcelé. Ensuite, vous pouvez choisir sinon une dissertation, trois sujets au choix. Corneille, le menteur. Selon vous, dans la comédie Le Menteur, l'art du mensonge est-il toujours maîtrisé? Le sujet B, Alfred de Musset, on ne badine pas avec l'amour. Les personnages s'affrontent-ils sérieusement dans On ne badine pas avec l'amour? Et le troisième sujet, Nathalie Sarraute, pour un oui ou pour un non. Avec cette question, un critique remarque que dans Pour un oui ou pour un non, le dialogue est toujours, en fin de compte, un jeu dans lequel tous les coups sont permis. Ouais. Cette citation éclaire-t-elle votre lecture de la pièce? Vous voulez le bac technologique aussi?
Oui, mais c'est quand même...
C'est costaud.
Le dialogue est-il un jeu?
C'est costaud. Alors, bac technologique, puisqu'évidemment, donc on est sur d'autres sujets, objets d'études pour le commentaire. La poésie du 19e au 21e siècle, avec un commentaire d'un texte de Richard Renier, Élégie pour le temps de vivre, un texte de 2012. Et puis ensuite, il y a la question de la contraction de texte et de l'essai, objet d'étude, la littérature d'idées du 16e au 18e siècle. Voilà, avec différents sujets à étudier. Les 535 000 candidats ont dû donc choisir ce matin, et on ne pouvait pas découvrir les sujets avant. Les candidats non plus ne pouvaient pas sortir de la salle avant, même pour aller aux toilettes, pour éviter justement toute fuite, toute triche.
Bon, c'est des sujets nationaux ou c'est par académie?
Ce sont des sujets nationaux, absolument, avec des sujets pour les bacs général et des sujets pour le bac technologique. C'est pour ça que je vous ai lu deux types de sujets pour ce matin.
Et juste pour info, Hortense, vous êtes devant le lycée Chaptal à Paris. Normalement, les lycéens peuvent sortir au bout d'une heure. Vous n'avez quand même pas vu les premiers à quitter la pièce, là, c'est bon?
Pour l'instant, non. Je suis dans la cour de récréation. On me signale ici à l'instant qu'il y a un candidat qui vient de sortir.
Brillant,
voilà, ils peuvent sortir qu'au bout d'une heure. Peut-être que c'était pour aller aux toilettes, puisque, encore une fois, je vous le disais à l'instant, on n'a pas le droit de sortir même pour aller aux toilettes avant une heure d'épreuve. Et donc, ils ont jusqu'à midi pour composer les candidats. Encore 3 heures, un peu moins de 3 heures pour eux, là.
Bon, bah, ils le savent pas, mais on pense à eux. Merci beaucoup à vous, Hortense Crépin.
Le rugby, d'un mot.
Non.
Le bac.
Pourquoi on appelle ça le bac? Le baccalauréat.
La question pas si bête de Florian Gazan.
Bonjour Florian.
Bonjour, merci Olivier.
Bon, alors pourquoi le baccalauréat?
Eh bien, à l'origine, le mot baccalauréat, figurez-vous, a un sens très éloigné de celui qu'on lui connaît aujourd'hui. Tout part du mot baccalaria, qui dans l'Empire romain désignait une métairie, une ferme qu'un propriétaire loue à un fermier pour qu'il l'exploite. Ce fermier, on l'appelle alors un baccalarius, qui au Moyen-Âge devient un bachelier, figurez-vous.
Bon, donc un bachelier à l'origine, c'est un fermier.
Voilà, qui n'a pas les moyens de posséder sa ferme. Par extension, ce mot bachelier a fini par désigner un jeune homme qui aspire à devenir chevalier, mais qui n'est pas encore assez fortuné pour, et qui, du fait de sa jeunesse, n'est pas encore marié. Ce qui explique pourquoi, en anglais, célibataire se dit bachelor. Eh oui. En évoluant encore au 15e siècle, un bachelier devient un adolescent sur le point de passer à l'âge adulte. Ce qui se passe symboliquement quand on a son bac, finalement.
Bon, alors ça, c'est pour le bachelier. Pour le baccalauréat, ça vient d'où?
Eh bien, au 13e siècle, quand cet examen est créé, oui, Napoléon ne l'a pas inventé, contrairement à ce qu'on croit, il l'a juste modernisé. Au 13e siècle, donc, les élèves qui le réussissent sont un peu vexés que ce mot bachelier renvoie à des origines paysannes qu'ils jugent juge dévalorisante. Donc, grâce au latin, ils réussissent un petit tour de passe-passe. Car si baccalaureus veut dire fermier locataire, baccalaureus signifie baie de laurier. Et la couronne de laurier, celle qu'à Rome ont posée sur la tête des vainqueurs, des héros comme Jules César, tout de suite, bah, c'est plus valorisant. C'est comme ça qu'ils ont inventé et imposé ce mot de baccalauréat. À l'origine, il était strictement réservé aux garçons, qui furent seulement 31 à l'obtenir lors de sa première édition version Napoléon en 1809. Et il restera ainsi jusqu'en 1924, exception faite de 1861, où Julie-Victoire Daubier, journaliste et militante féministe, a réussi à le passer à 37 ans, grâce à l'appui de l'impératrice Eugénie, l'épouse de Napoléon III. Je ne peux pas vous donner sa note, car à l'époque, il n'y en avait pas encore. Elles sont apparues en 1890 avec Jules Ferry. Avant, on notait avec un système de boules. Chaque juré avait 3 boules, une blanche positive, une rouge moyen et une noire négative. Il fallait une majorité de boules blanches pour réussir une épreuve. C'était un peu motus. Il fallait surtout pas la boule noire.
Merci beaucoup à vous, Florian Gazan, et merci Olivier. Ah bah peut-être un petit mot de rugby alors.
Exactement, le premier match de barrage ce soir pour accéder, tenter en tout cas d'accéder aux demi-finales du top 14 de rugby. Bayonne, Clermont, c'est à 21h05 ce soir.
Merci beaucoup.
Petit coup d'œil à notre météo. Attention aux orages, on va avoir 14 départements alors, du nord-ouest et du sud-ouest placés en alerte.
Hein. Exactement, alors ce sera surtout pour la fin d'après-midi et la soirée. Hein. Pour l'instant, le soleil domine quasiment partout. On a quelques nuages en Bretagne, on a un peu sur la région Poitou-Charentes ou encore dans le Languedoc. Mais là, c'est bien le soleil qui va s'imposer une bonne partie de la journée. Puis c'est vrai qu'en cours d'après-midi, surtout fin d'après-midi, ben là, les orages vont commencer à se développer sur la Bretagne, la Normandie, puis se décaleront vers le Nord-Pas-de-Calais. C'est là où ils seront les plus intense. Même chose dans le sud-ouest, remontant des Pyrénées vers le sud de la Garonne, puis vers le Limousin en cours de soirée. Attention donc à la violence des orages, je rappelle, de la grêle, des rafales de vent possibles, ou encore de fortes pluies pouvant provoquer des inondations localement. Dans les autres régions, encore beaucoup de soleil, notamment près de la Méditerranée. Et puis les températures avant les orages vont s'envoler hein, cet après-midi. 22 à 27 degrés près de la Manche, pas moins. 27 à 34 degrés dans toutes les autres régions. On ira même jusqu'à 35 degrés à Metz, à Besançon par exemple, à Grenoble, encore à Clermont-Ferrand.
Merci beaucoup à vous Louis Baudin. Et du coup, on n'oublie pas la crème solaire hein, dont nous parlait Baudin, parce que là ça cogne. Merci beaucoup à vous. Dans un instant, une page spéciale après les frappes israéliennes en Iran sur RTL. On sera avec Georges Malbruno, grand reporter et spécialiste des questions internationales ici à RTL. Le général Olivier Kempf, chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Thierry Coville, chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran. Et Betsabé Salem, qui est notre correspondante à Tel Aviv. On va revenir sur ce qui s'est passé, sur la capacité de l'Iran à répondre à ces attaques israéliennes, sur le risque d'engrenage et sur le rôle que peut ou ne peut pas jouer la France. C'est à suivre en direct sur RTL. Vos questions également, n'hésitez pas, 64 900 avec le mot-clé matin. À tout de suite.
RTL Matin, c'est jusqu'à 10h.
Dragon. Depuis des générations, ils ont grandi en apprenant à craindre ces créatures.
Ces bêtes sont une menace pour nos terres.
Mais Harold, lui, a décidé de défier les traditions.
Je suis le premier viking qui veut pas tuer de dragon.
Pour sauver un furie nocturne, il va tout risquer.
Tout ce qu'on sait sur les dragons est faux.
Dragon, une aventure époustouflante, actuellement au cinéma, avec RTL. RTL.
Les passagers destination hybride sont priés de se rendre dans leur concession Suzuki la plus proche pour profiter des 5 modèles et 3 technologies hybrides Suzuki à partir de 159 € par mois. Destination hybride, embarquement immédiat. Profitez des portes ouvertes ce week-end.
Prix pour Swift Hybrid Avantage, location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier loyer de 4 000 €. Entretien inclus, valable jusqu'au 30 juin 2025. Si accord Kofika Bay. Détails sur suzuki.fr.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Carrefour. Quand vous me dites les fraises gariguettes, juteuses, fondantes et tellement goûteuses, ça tombe bien, le bon plan du week-end, c'est la barquette de 250 grammes de fraises gariguettes origine France à 2,99€, soit 11,96€ le kilo. Alors rendez-vous jusqu'à dimanche chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur votre appli Carrefour. Retrouvons tous le goût avec Act for Food. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Catégorie 1, détails sur carrefour.fr.
Bienvenue chez Nicolas. On vous rembourse la différence sur plus de 100 références de vins spiritueux et champagne si vous trouvez moins cher ailleurs.
Mais le champagne, c'est une appellation d'origine contrôlée, une zone géographique et une méthode de production spécifique. Un champagne à prix serré, c'est champagne.
Eh oui. Nicolas, chez nous, la modération, c'est aussi sur les prix.
Offre de remboursement valable dans les 500 magasins participants. Points crédités sur votre carte de fidélité. Modalité disponible sur nicolas.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Alain Afflelou présente...
1, 2, 3, 3 paires pour bronzer, lire ou sortir. Pour le plaisir
Cet été, Chin Chin d'Afflelou, c'est deux paires de lunettes de plus pour 1 euro de plus. La troisième, c'est pour vous ou qui vous voulez avec la carte cadeau Alain Afflelou. Offre valable jusqu'au 31 août, voire conditions en magasin. Dispositif médical. Demandez conseil à votre opticien.
Auchan. Et aujourd'hui alors, c'est quoi le bon choix moins cher?
Eh bien, chez Auchan, on fait le choix de vous proposer jusqu'à demain des abricots Origine France à seulement 2,75€ le kilo. Et grâce à votre carte Waouh, cagnotez en plus 10% le jour de votre choix sur tous les produits Fredéal.
Avec tout ça, c'est pas le fruit du hasard si je fais des économies.
Auchan, le choix, le bon. Offre valable en magasin Origine France, catégorie 1, calibre 2A. Jour Waouh non valable le week-end, voire modalité détaillée en magasin et sur Auchan.fr.
On n'est pas toujours d'accord. Le débat du 9-10.
Depuis des décennies, les tyrans de Téhéran ont ouvertement appelé à la destruction d'Israël. Ils ont bâti leur rhétorique génocidaire avec un programme pour développer des armes nucléaires. Aujourd'hui, l'État juif refuse d'être victime d'un holocauste nucléaire perpétré par le régime iranien.
Ces mots, ce sont ceux cette nuit de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, après ces frappes donc qui ont touché l'Iran. Israël a-t-elle déclaré la guerre à l'Iran cette nuit? Quelles conséquences sur la région? Quelles conséquences sur le monde d'ailleurs? On va prendre le temps ce matin sur RTL pendant une vingtaine de minutes de répondre à toutes ces questions. Celles que vous vous posez aussi, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages au 64 900. Georges Malbruno, grand reporter et éditorialiste ici à RTL, est à nouveau avec nous. Georges, merci d'être là. Le général Olivier Kampf, chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Merci à vous. On va décrypter toutes ces questions autour notamment du nucléaire avec vous. On est en ligne avec Thierry Coville. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran et auteur de l'Iran, la révolution invisible. Et puis on retrouvera bien sûr Betsabé Salem, notre correspondante à Tel Aviv, en direct d'ici quelques toutes petites minutes.
On va commencer, messieurs, si vous voulez bien, par une première impression. Vous êtes tous très expérimentés et très spécialisés sur le sujet. Ce qu'il se passe depuis quelques heures est-il vraiment d'une gravité supérieure à ce qu'on a pu connaître au bombardement contre le Liban, contre le Hezbollah? Est-ce qu'on est dans une échelle vraiment différente, supérieure et plus inquiétante, Georges Malbruno?
Ah oui, là, il y a vraiment un risque de basculer dans une nouvelle dimension à partir de deux données. D'une part, ce que je disais tout à l'heure dans mon éditorial, un début de décapitation du régime à travers l'élimination du patron des gardiens de la Révolution, du chef d'état-major de l'armée, et également quand même cette vague de bombardements massifs sur les sites nucléaires qui pourraient continuer. Et donc là, on est plus, je dirais, dans une opération comme on a connu l'an dernier de riposte, mais je dirais chorégraphiée. Les Iraniens disent le régime, je les cite, terroriste, a franchi toutes les lignes rouges, donc on y reviendra. Une des ripostes iraniennes qui est à craindre, c'est, comme je le disais, une sortie du traité de non-prolifération nucléaire, un premier test nucléaire annoncé, et donc là, après, on bascule dans une autre dimension, sachant que le régime se sent menacé, et donc il pourrait aller vers sa sanctuarisation grâce à un programme nucléaire qu'il pourrait, encore une fois, accélérer.
Général Kampf.
Oui, on verra les aspects militaires, j'imagine, mais ils seront assez réduits parce que le dispositif nucléaire, le dispositif balistique, le dispositif scientifique ne sera pas atteint ni par les Israéliens, ni même avec un appui américain. Donc
Pardon ?
Parce que le dispositif iranien est suffisamment dispersé et enterré de façon suffisamment profonde, en plus dans des zones montagneuses qui sont difficiles d'accès, qui fait que, avec des moyens classiques, et compte tenu de la dispersion, et puis en plus on ne sait pas tout, parce qu'il est probable aussi que les Iraniens ont caché des choses ailleurs, donc le programme nucléaire iranien demeure. Et donc effectivement, derrière ces aspects militaires, on va y revenir, vous avez une conséquence politique, géopolitique et stratégique énorme, qui est celui, et je rejoins tout à fait Georges sur ce point-là, celui du franchissement du seuil par les Iraniens, c'est-à-dire que les Iraniens vont aller vers une militarisation du nucléaire, vont développer une bombe au début rustique, vont choisir la voie nord-coréenne, mais dans la région, et c'est pour ça que c'est important, cela va développer une séquence de prolifération régionale. Et donc, Israël, qui était la seule puissance nucléaire du Proche et du Moyen-Orient, bientôt ne va plus l'être.
Alors, Georges, vous avez employé un mot qui est une guerre de décapitation. C'est exactement ce que disait Joshua Zarqa, l'ambassadeur d'Israël en France. Il était en direct pour sa toute première réaction sur RTL à 7h40.
Non, ce n'est pas une guerre. C'est une opération de décapitation et une opération qui a pour but d'arrêter le programme nucléaire, surtout d'arrêter le programme nucléaire iranien qui avançait d'une façon très dangereuse ces derniers temps. Nous avons fait tomber la direction, disons, le dirigeant de la défense iranienne, de l'armée iranienne. Mais surtout, l'idée est de faire tomber, d'arrêter le programme nucléaire qui avançait d'une façon très dangereuse.
Mmh. On va retrouver Thierry Coville, vous êtes donc chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran et auteur entre autres de « Iran, la révolution invisible ». Thierry Coville, est-ce qu'aujourd'hui l'Iran est de nature à faire face militairement à cette offensive des Israéliens? On sait qu'il y a des drones qui ont été interceptés, lancés par les Iraniens ces dernières heures en réponse. Mais sont-ils armés, entre guillemets, pour aller dans une guerre?
Alors, moi je suis pas spécialiste des questions militaires, mais ce que je sais, c'est que c'est comme dans n'importe quel pays, cette éventualité avait été envisagée par les Iraniens. Très clairement, Trump quand même a menacé plusieurs fois en disant « si les négociations échouent, on va vous bombarder ». Donc les Iraniens sont loin d'être bêtes, en tout cas ils s'y préparaient. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça, c'est difficile à dire. On sait qu'ils viennent d'envoyer des drones, mais ils ont un programme balistique. Comme ça a été dit, c'est quand même... faut être bien naïf pour penser que maintenant, ça y est, ils ont été affaiblis. Et tout ce discours consiste à dire « l'Iran a été affaibli », etc. Faut faire très attention au discours. Très clairement, ils se préparaient à cette éventualité, mais c'est vrai qu'il y a une part de surprise, parce qu'ils sont quand même en train de négocier directement avec les États-Unis. Mm-hmm. Ces négociations n'ont pas terminé. Donc, et puis, je me permets de rappeler que ce que vient de faire Israël, c'est... Enfin, ne parlons plus du droit international. Où est le droit international? Donc un pays peut décider d'en attaquer un autre de manière préventive, donc ça pose quand même des gros problèmes.
Et ce matin, on lit les forces armées disent qu'elles n'auront pas de limite dans leur réponse à Israël. Pas de limite pour quiconque non spécialiste à le dire en temps ça, c'est inquiétant, non?
Alors, il faut se méfier des déclarations, je dirais, comme ça, bravage de l'Iran. En 2020, lorsque les Américains ont assassiné Qassem Soleimani, qui était vraiment un des principaux responsables de l'action armée de l'Iran en dehors de ses frontières, finalement, ça s'est traduit par pratiquement pas de riposte. Cela étant, aujourd'hui, on est bien au-delà de ça. Donc, il y aura une riposte. Elle a commencé, je dirais, militaire, à base de drones, les Israéliens vont intercepter, les Américains vont aider, mais je pense, comme ça a été dit, comme nous l'avons dit, la riposte risque d'être plus au plan nucléaire, avec ce risque de dire, voilà, bah écoutez, vous Israël, vous sortez des règles du jeu, vous brisez les règles du jeu, nous étions en train de négocier avec les Américains à Mascate dimanche prochain, nous aussi nous allons sortir des règles du jeu. Ça c'est mort, dans l'immédiat, et je vois mal les Iraniens.
Négociation dimanche sur le nucléaire iranien, on voit pas.
Ouais. C'est mort. L'Iran a déjà dit qu'il tenait pour responsable les États-Unis. D'où on y reviendra. Il y a un jeu de Trump qui est quand même assez ambigu. Donc on est plutôt sur cette menace et avec un régime iranien menacé, affaibli en interne, aussi par la perte de ses alliés au niveau régional, qui pourrait avoir envie de se sanctuariser grâce à un saut vers le nucléaire, comme on l'a dit.
Général, comme ce pas de limite, vous l'interprétez comment, vous ?
Oh, immédiatement, il va y avoir des ripostes militaires. D'ailleurs, les Iraniens l'ont déjà fait deux fois par le passé. La première fois, en avertissant tout le monde, il y avait eu finalement peu de dégâts. La deuxième fois, sans avertir, avec déjà quelques débats. La question n'est pas celle des drones de longue portée, parce qu'ils sont facilement détectables, mais ils peuvent saturer les défenses aériennes. En revanche, la question est celle des missiles balistiques. On a vu que les Houthis au Yémen du Sud avaient déjà tiré quelques missiles balistiques contre Israël et certains avaient pu passer. On va voir là probablement des missiles balistiques iraniens contre Israël et certains passeront probablement. Cela étant, est-ce que c'est suffisant? Non, certainement, de la même façon que militairement c'est pas suffisant pour décapiter le système iranien.
On va aller tout de suite en direct en Israël avec notre correspondante Betsabé Salem. Betsabé, on était avec vous tout à l'heure et depuis 7h ce matin, l'état d'urgence a été décrété en Israël. On imagine les Israéliens un peu secoués quand ils se sont réveillés ce matin en apprenant tout ce qui s'était passé et à se demander si leur pays est entré en guerre avec l'Iran.
Oui, je vous confirme, Thomas, ils se sont pas que demandé, hein. C'était assez agressif. Il était 3h du matin et non seulement les sirènes ont retenti. Alors le premier réflexe ici, c'est de croire qu'il s'agit de missiles tirés depuis le Yémen, hein, puisque presque quotidiennement, eh bien, des missiles sont tirés depuis le Yémen. Et en fait, on a eu en même temps, eh bien, des alertes stridentes, hein, vraiment sur les téléphones à plusieurs reprises, avec des notifications selon lesquelles, eh bien, Israël commençait une vaste campagne contre l'Iran et qu'il fallait s'attendre à des ripostes donc de la part de Téhéran. Les Israéliens qui ont été invités à rester vraiment à proximité des abris en attendant évidemment des tirs de missiles et de drones. Je voudrais juste préciser pour rebondir sur la capacité de réponse de l'Iran que les médias ont révélé il y a quelques minutes qu'apparemment le Mossad, hein, la censure a été levée, le Mossad aurait réussi à fabriquer sur place en Iran des drones et des missiles, et ces drones et ces missiles qui auraient donc participé finalement à cette attaque en pleine nuit, donc qui a doublement finalement surpris l'Iran et bien sûr doublement endommagé les infrastructures non seulement nucléaires mais aussi les sites de missiles balistiques, les entrepôts de drones aussi.
Ça veut donc, dire qu'on serait sur une opération très sophistiquée, un peu de la même manière que celle qui avait décapité les dirigeants du Hezbollah au Liban il y a quelques mois, c'est ça ?
Oui, tout à fait, hein. D'ailleurs, on a vu que de hauts dirigeants des gardiens de la révolution ont été éliminés cette nuit. Alors, tout n'est pas officiel, mais on a de plus en plus d'informations qui nous viennent, notamment des médias iraniens. Le chef d'état-major, hein, des gardiens de la révolution a été éliminé, son adjoint aussi. Et ici, les experts du Moyen-Orient soulignent, que ces gens-là, ils ne sont pas remplaçables facilement. Donc, finalement, cette stratégie militaire, elle a consisté non seulement en des frappes extrêmement agressives, mais aussi en l'élimination de ces dirigeants, comme on l'a vu, vous l'avez dit, au Liban.
Merci beaucoup, Betsabeh Salem, en direct avec nous depuis Tel Aviv. Vous restez avec nous, Thierry Kovic, je reviens vers vous, spécialiste de l'Iran. Quelle peut être l'attitude de la société iranienne par rapport à tout ce qui se passe actuellement ?
Ben, on a eu déjà un début de réponse lors des dernières élections présidentielles, puisque les Iraniens ont quand même élu quelqu'un qui était prêt à négocier avec les États-Unis sur la question nucléaire pour lever les sanctions. Et une majorité d'Iraniens ont voté pour lui par rapport à son adversaire qui était sur une position beaucoup plus dure, qui voulait pas vraiment de négociation. Donc je dirais que la majorité de la population iranienne voudrait que ça se calme, qu'il y ait des négociations, voudrait que les sanctions soient levées et que la situation économique soit plus favorable et que les relations de l'Iran avec le reste du monde se normalisent. Et d'un autre côté, c'est toujours pareil, hein, quand un pays est attaqué, il y a quand même un grand nationalisme en Iran. Comment ?
Ça resserre les liens.
Ben oui, c'est un pays qui depuis a été attaqué, certains diraient depuis son existence. Voilà, il a été attaqué par les Mongols. C'est un pays qui résiste, qui est habitué à résister. Deuxième élément, c'est vrai qu'il y a quand même les radicaux dont fait partie le guide Ali Khamenei qui haïssent, hein, on peut dire, les États-Unis et Israël, et qui avait fait un gros effort pour commencer ces négociations. Vous imaginez dans quelle attitude sont pensées. Hein. Quand j'entends dire que ces attaques-là sont faites pour favoriser les négociations avec les États-Unis, je me demande sur quelle planète les gens vivent. Et puis effectivement, il y a quand même l'idée que l'Iran a été attaqué. Ce que je disais, il y a quand même, d'après ce que j'ai compris, des victimes civiles. Bon, c'est quand même que voilà, c'est des éléments qui jouent. Donc je pense que la société iranienne est choquée, même si ils étaient tout à fait d'accord. Hein. Bon, il se trouve que je reviens d'Iran, c'est un peu le hasard hier. Je pense qu'il y a une majorité d'Iraniens qui étaient pour ces négociations. Donc on voit aussi que Netanyahou veut faire échouer ces négociations.
Et on est dans un pays où la population conteste par ailleurs largement le gouvernement, le régime d'Ebola en Iran, tout ça aussi, il faut savoir en tenir compte, Georges Malbruno.
Et donc, effectivement, je pense que je vais en Iran depuis 25 ans, silencieusement, beaucoup d'Iraniens approuvent ces frappes, mais il y a aussi, comme Thierry Coville l'a dit, un nationalisme de ressentiment qui peut être instrumentalisé par le régime pour dire voilà, nous sommes attaqués. Il faut rappeler que le nucléaire a été lancé par le Shah d'Iran grâce à la France et Antoine, donc c'est quelque chose auquel ils sont attachés.
Et on sait qu'on n'a pas de bilan, vous évoquiez Thierry Coville, le bilan. Pour l'instant, on sait que le chef d'état-major des armées iranien a été tué, un haut responsable,
le chef des gardiens de la révolution, chef des gardiens qui est quand même le personnage central.
Pour le reste, on est un peu dans le flou.
Le négociateur en chef, justement, le négociateur en chef pour les fameuses négociations a été tué, et un des directeurs scientifiques du programme nucléaire a été tué également.
Un grand merci Thierry Coville d'avoir été avec nous en direct ce matin sur RTL. Je rappelle votre dernier livre, Iran, la révolution invisible. Vous restez avec nous, on va voir les répercussions sur le reste du monde et notamment aussi ces mots de l'ambassadeur d'Israël en France. On a l'impression que clairement les liens avec la France sont distendus ce matin. À tout de suite.
Amandine Bégaud et Thomas Soto, c'est RTL Matin.
Vous préférez partir à Hawaï en claquant des doigts ou surfer avec grâce sur les vagues de la vie? Il y a des choix difficiles à faire, on est d'accord, comme choisir entre la qualité et le prix. Heureusement pour ça, il y a la paire. Du 5 au 23 juin, pendant les 18 jours pour tout rénover, il y a moins 15% sur tout le magasin des 1000 euros d'achat. Entre la qualité et le prix, choisissez les deux, choisissez la paire. Cuisine, salle de bain, menuiserie, la paire. Il n'y en a pas deux. Conditions en magasin et sur lapaire.fr.
Carrefour.
Quand vous me dites le whisky, à servir dans de très beaux verres, évidemment. Eh bien, ça me donne envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la bouteille de Scotch Whisky Single Malt Sodeveron 10 ans d'âge est à 16,30€ au lieu de 24,70€. Alors rendez-vous jusqu'à dimanche chez Carrefour et Carrefour Market.
Carrefour. 70 centilitres, soit 23,29€ le litre, 40 degrés par volume, détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Mercedes-Benz.
Il vous faut quoi pour passer à l'électrique? Une grande autonomie, un SUV compact ou un SUV 7 places? Un loyer attractif? Et pourquoi pas une Mercedes? Jusqu'au 30 juin pendant les Star Days, profitez de l'EQA et de l'EQB 100% électrique avec le pack AMG Line des 399€ par mois.
Location longue durée 37 mois 45 000 km. Premier loyer de 399€, bonus écologique de 2000€ déduit si acceptation par Mercedes-Benz Financement. Détails sur mercedes-benz.fr. Star Days, journée étoilée. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Le décès de ma mère, c'était un moment difficile. Et quand j'ai dû m'occuper des obsèques, j'ai choisi Rock Éclair. J'ai pu les joindre le soir même au 3024 et l'agence la plus proche de chez mes parents m'a rappelé immédiatement. Ils m'ont aidé à préparer la cérémonie qu'elle aurait voulu. C'était un beau moment. Après les obsèques, ils ont même pris en charge toutes les démarches. Les courriers, la clôture de tous les comptes et des abonnements. Ça nous a vraiment soulagés. Et pour les prix, c'était clair et très correct.
Rock et clair, là, pour vous, dans près de 500 agences en France et au 3024.
Si vous aimez la qualité, essayez-la à prix discount. Ben oui. Chez Aldi, nos pastèques ont tout d'une très bonne pastèque. Fraîches et juteuses, elles vous permettront aussi de surprendre vos convives avec un petit. Bah, tu sais que ça se grille, les pépins de pastèque. Bah, c'est la tendance gourmande du moment, hein. Oui, vraiment. Nos pastèques ont tout d'une très bonne pastèque, mais à prix discount. 3,99€ seulement la pièce. Oui, 3,99€. Aldi, la meilleure qualité, à prix discount. En ce moment chez Aldi, origine Espagne, offre valable jusqu'au samedi 14 juin, info sur aldi.fr.
On n'est pas toujours d'accord, le débat du 9-10.
Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'État français a été informé en amont de ces frappes?
Non, parce que l'État français, depuis certaines périodes, n'est pas aussi proche, disons, que qu'il était auparavant.
L'État français n'est plus un allié d'Israël, n'est plus un allié évident d'Israël.
Il est un allié, mais pas au point où être annoncé, disons, traite, voire un préalable d'une telle opération.
C'était Joshua Zarqa, l'ambassadeur d'Israël en France, pardon, qui était l'invité d'RTL Matin tout à l'heure. On continue à essayer de comprendre ce qu'il se passe entre Israël, l'Iran et tous les pays de la région, parce que tout le monde est impliqué avec ces tirs nourris qui visent l'Iran de la part de l'État hébreu depuis cette nuit. Et avec nous, Georges Malbruno, je vous le rappelle, et ainsi que le général Olivier Kempf. Sur le rôle de la France, les mots sont assez durs quand même. On sent vraiment qu'on est... presque, il est bien élevé, il a un langage diplomatique, mais on n'est presque plus un allié de premier rang pour les Israéliens.
Alors, je pense que M. Zarqa est un petit peu dur à l'égard de la France concernant l'Iran, parce que la France, diplomatiquement depuis une vingtaine d'années, est un peu la mouche du coche dans les négociations avec l'Iran et a toujours une position dure. Et les Israéliens savent très bien que justement, dans le différend nucléaire qui les oppose à l'Iran, la France est à leur côté. Elle a soutenu l'an dernier, nos avions ont intercepté des drones iraniens au-dessus de la Jordanie à partir de notre base à Azraq. Donc voilà, je pense que Israël en veut à Emmanuel Macron à propos de la reconnaissance de la Palestine. On verra s'il va le faire la semaine prochaine. Sinon, sur l'Iran, Israël sait que la France, de ce point de vue-là, est un allié indéfectible, ce qui fait d'ailleurs que nos relations avec l'Iran sont exécrables.
En tout cas, ils ne nous ont pas prévenus. En tout cas, ils n'ont pas prévenu.
Ça vous paraît normal, ça, général ?
Oui, c'est normal qu'ils ne nous préviennent pas. Ils ont prévenu les Américains. Les Américains disent qu'ils n'ont pas participé. Donc, on a une sorte de soutien sans participation, pour reprendre une formule par ailleurs. Mais ça, c'est, si vous voulez, les liaisons entre Israël et les États-Unis sont tellement profondes qu'il est illusoire de croire qu'Israël discutera avec d'autres pays, et notamment des pays européens. S'agissant des relations avec la France, on voit bien depuis deux mois à peu près un durcissement de ces relations à cause justement du durcissement, enfin du un peu raidissement français sur la question des frappes israéliennes à Gaza. Et donc, bien sûr, il y a l'enjeu d'une éventuelle reconnaissance de l'État palestinien, mais il y a aussi une sorte de raidissement des propos français vis-à-vis d'Israël qui fait que les relations se distendent ces temps-ci.
Et on va y aller en Israël tout de suite en direct avec vous, Betsabé Salem, alors que la France appelle à la retenue par la voix de Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères. Betsabé, comment la France, de quel œil la France est regardée en Israël aujourd'hui ?
Alors c'est ça va être compliqué d'être politiquement correct là-dessus, parce que franchement, pour être honnête, si vous parlez avec les Israéliens ici, ils ont globalement envie de dire à la France, mais mêlez-vous de vos affaires. Ils insistent, pour avoir pas mal parlé justement lors de ces tensions, j'ai interrogé pas mal d'Israéliens, et aussi bien sur les critiques venant des autorités françaises, ou bien sûr il y a eu pas mal de choses ces derniers mois, on sent toujours cette idée selon laquelle soit la France ne comprend pas ce qui se passe ici, soit ils accusent Macron d'être hypocrite, de vouloir juste satisfaire une partie de la population française, en l'occurrence la population musulmane. Vraiment, les remarques de la part de la France sont très mal accueillies. D'ailleurs, on voit sur le plan politique, au niveau des autorités israéliennes, les propos du président français ou des autorités françaises en général sont très mal accueillies. Et c'est vrai que ces dernières semaines, c'est ce qui est sorti des déclarations du gouvernement israélien.
Georges Malbruno, on sait que le projet d'Emmanuel Macron, c'était a priori dans les prochains jours à l'ONU de reconnaître officiellement la Palestine. Est-ce que ce qui s'est passé cette nuit remet en cause ça ?
Alors, Emmanuel Macron, pour l'instant, hésitait. Il n'a pas envie de reconnaître seul la Palestine. Il aimerait que la Grande-Bretagne, que le Canada en fassent de même. Avec ce qui s'est passé cette nuit, je pense que ça complique quand même un peu la donne, parce que on voit que Israël, les États-Unis, qui font pression sur lui pour qu'il ne le fasse pas, eh bien vont dans leur narrative, vont dire, regardez, si vous reconnaissez, c'est reconnaître un État Hamas, le Hamas est allié de l'Iran, donc en termes de communication, ça va être difficile pour Emmanuel Macron de franchir le pas. Cela étant, rien n'est exclu si jamais il y a une dynamique justement pour essayer de sortir un peu, je dirais, par le haut de cet engrenage, mais on est aussi sur deux dossiers quand même un petit peu différents d'une manière pratique. Ce qui se passe à Gaza n'a pas grand-chose à voir avec les frappes israéliennes sur l'Iran.
Bon, ça continue à se compliquer de partout. L'armée jordanienne déclare à l'instant avoir intercepté des drones et des missiles ayant violé son espace aérien après que l'Iran avertit qu'il n'y aurait aucune limite dans sa réponse. Et puis le ministre de la Défense israélien, cette fois, menace d'éliminer ceux qui cherchent à détruire le pays.
Voilà. Je reviens à mon vocable d'éradication. Ceux qui menacent d'éliminer Israël, eh bien, il a un nom, c'est le guide suprême Ali Khamenei, dont on peut penser qu'il a été placé au secret la nuit dernière pour éviter d'être le prochain sur la liste.
Général Kempf, on compte sur vous pour le calme des vieilles troupes. Il y a des raisons de ne pas être complètement pessimiste ce matin quand même ?
Pas beaucoup quand même. Ouais. Bon, je suis désolé de le dire. Non, la tension monte. Israël, je constate que Israël frappe beaucoup dans ses alentours. Il frappe Gaza, bien sûr. Il frappe au Liban. Il frappe en Syrie. Maintenant, il frappe en Iran. Et donc, on a aujourd'hui déjà beaucoup de violence au Proche et au Moyen-Orient. Les Iraniens ne vont pas en rester là. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir que la Jordanie continue à tenir son accord avec les Israéliens, mais la rue arabe et les monarchies arabes et les régimes arabes vont forcément, d'une façon ou d'une autre, reconsidérer leur relation avec Israël, d'une part, reconsidérer leur relation avec les États-Unis en se disant quelle garantie de sécurité américaine, deuxième chose. Troisième chose, ça ouvre la porte à la prolifération, c'est-à-dire qu'un pays comme l'Arabie Saoudite, par exemple, décide lui aussi de passer sur la bombe nucléaire.
Georges, vous vouliez ajouter un mot ?
Oui, je pense qu'à travers ces développements, ce qui est quand même assez, ce qui peut interroger, c'est le rôle ambigu de Trump, qui hier nous disait on est proche d'un accord, qui disait il n'y aura pas de frappe israélienne tant qu'il y a des négociations, et là, soudainement, il avalise ces frappes israéliennes, donc il y a un jeu très ambigu de la part des Américains.
On continuera évidemment à parler toute la journée hein, sur RTL, des RTL Midi d'ailleurs, de ces événements historiques peut-être que l'on est en train de vivre, auxquels on est en train d'assister, qui en tout cas vont changer une nouvelle fois durablement la donne au Moyen-Orient. Merci à Aurélia Valarié et Victor de Rinxin qui nous ont aidés à préparer largement cette page spéciale. Merci à vous, Général Kempf. Merci à vous, Georges Malbruno. Dans un instant, on va se détendre parce que figurez-vous que, hasard du calendrier, comme on dit, demain c'est la journée mondiale du bien-être. Eh bien, il y a du boulot. À tout de suite.
Amandine Bégaud et Thomas Soto, c'est RTL Matin. On en parle.
Pourquoi passer à la mobilité électrique à l'approche des vacances d'été ? On en parle avec Camille, conseillère EDF. Bonjour.
Bonjour. Eh bien, parce que choisir l'électrique, c'est vraiment faire des économies. En fait, la recharge de votre voiture électrique vous coûtera 4 fois moins cher que de faire un plein d'essence. Et c'est quand même plus agréable de le faire depuis chez vous plutôt que d'aller à la station de service.
Ça, c'est sûr. Merci, Camille.
Source R&D EDF, mars 2025. Plus d'infos sur edf.fr/mobilité-électrique. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
À tous ceux qui apportent un bon vin lorsqu'ils sont invités à manger. À ceux qui sont toujours un peu déçus lorsque leurs hôtes ne l'ouvrent pas. Et aux mêmes qui se voient servir à la place un petit vin du coin d'un copain, tu m'en diras les nouvelles. Et qui se disent que c'est la dernière fois qu'ils apporteront un bon vin. On ne vous en voudra pas si vous le gardez pour vous, mais jusqu'à lundi, Intermarché propose la bouteille de vin AOP Saint-Estève Château Lafite Carcassay de 2019 à seulement 14,50€. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 16 juin, 75 centilitres, soit 19,33€ le litre, modalité et magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Pourquoi venir chez Castorama spécialement ce week-end ? Parce que c'est le bon moment pour réaliser tous vos projets, à tout petit prix. Alors direction Casto ! Dès ce vendredi 13 juin et jusqu'à lundi chez Castorama, c'est 15€ offerts en carte cadeau tous les 100€ d'achat. Valable sur tous les produits et dans tous les rayons. 15€ offerts tous les 100€ d'achat. C'est exceptionnel ! Bah oui, mais c'est seulement jusqu'au lundi 16 juin. Alors vite, direction Casto ! Offre réservée aux porteurs des cartes de fidélité, voire conditions en magasin et sur castorama.fr.
Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Vous êtes d'accord, Claire ?
Je suis toujours d'accord.
Eh bien, en ce moment, pendant le top rayon, exclusivement avec ma carte Netto, recevez un bon d'achat de 20% du montant dépensé sur tous les produits du rayon marée libre service.
Crevettes, saumon, paella de la mer, ce soir c'est dîner marin sans faire de vagues sur le budget.
Et téléchargez l'appli Netto France pour découvrir tout le prospectus.
Netto, on gagne tous à payer moins cher. Offre réservée aux porteurs de ma carte Netto. Plus d'infos sur netto.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Mercedes-Benz.
Il vous faut quoi pour passer à l'électrique ? Une grande autonomie ? Un SUV compact ou un SUV 7 places ? Un loyer attractif ? Et pourquoi pas une Mercedes ? Jusqu'au 30 juin pendant les Star Days, profitez de l'EQA et de l'EQB 100% électrique avec le pack AMG Line des 399€ par mois.
Location longue durée 37 mois, 45 000 km. Premier loyer de 399€, bonus écologique de 2000€ déduit si acceptation par Mercedes-Benz Financement. Détails sur mercedes-benz.fr. Star Days, journée étoilée. Pensez à covoiturer.
Auchan.
Et aujourd'hui alors, c'est quoi le bon choix moins cher ?
Eh bien, chez Auchan, on fait le choix de vous faire faire des économies pour partager de bons moments entre amis. Jusqu'au 22 juin, bénéficiez de 60% de remise immédiate sur le deuxième produit au choix de la gamme Doritos.
60% de remise ? Oh, ça sent le gros crunch pour les tortillas et les sauces Doritos.
Auchan, le choix, le bon. Au rayon épicerie salée, hors promotion en cours et format promo, valable sur le moins cher des deux dans vos magasins et drive Auchan participants. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
L'invité du 9-10.
Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où ? Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où ?
Eh ben on va le trouver. On va essayer de le trouver sur RTL, le bonheur, ce matin, à la veille de la journée mondiale du bien-être. RTL vous propose une journée spéciale bien dans sa tête, bien dans son corps. Et pour en parler, c'est Fabrice Midal qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur RTL, auteur du best-seller « Foutez-vous la paix ». Et vous venez de publier « La magie de l'ordinaire » chez Flammarion une nouvelle fois. Je ne vous cache pas, Fabrice Midal, qu'on vient de parler pendant 25 minutes de ce qui se passe en Iran, de ces frappes d'Israël sur l'Iran, avec un constat bien pessimiste de nos experts. Comment, quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, on peut encore se sortir bien, être heureux ?
Ben justement, vous avez tout dit, parce que si l'idée du bonheur, c'est de se fermer les yeux sur ce qui se passe dans le monde, ça ne marche pas. Mais en même temps, ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas en paniquant qu'on va aider la situation. Donc je crois que la question du bien-être, si ça devient une journée mondiale, si on essaye d'y réfléchir, c'est comment faire pour essayer de garder de l'allant, du courage, de la joie. Et il faut pas penser le bonheur comme quelque chose d'un peu niais, mais comme une force de courage, de qui nous permet de pas baisser les bras et d'essayer d'aller de l'avant.
Donc c'est, je crois c'est un acte de résistance d'essayer d'être heureux aujourd'hui.
C'est un acte de résistance parce que si on se laisse aller, on finit par être découragé, plombé, plus avoir d'énergie. Donc c'est important d'essayer de voir, mais au fond, qu'est-ce que je peux faire pour garder les pieds sur terre et garder mon aspiration et d'essayer d'apporter un peu de joie dans ce monde.
Et peut-être aussi plutôt de rechercher des petits bonheurs plutôt que le bonheur comme force absolue ou comme valeur absolue.
Oui, c'est-à-dire que souvent, on a un rêve de bonheur qui nous empêche de l'être. Alors on a un peu, voilà, la vision, je serai heureux parce que j'aurai la maison avec la piscine. Les enfants qui courent faire leurs devoirs avec une joie irrésistible, il fait absolument toujours beau, et là je suis heureux. Maintenant, il pleut, et donc peut-être qu'il faut voir le bonheur comme la possibilité d'apprécier et de regarder ce qu'il peut y avoir de magique qu'on ne voit pas. Donc je dirais, c'est très simple, mais en même temps, c'est de rentrer dans la profondeur du simple. Parce que juste les trucs un peu simples, ça c'est un peu banal. Ouvrez-vous aux choses simples, d'accord. Mais comment faire que la chose la plus simple, là... Et dans mon livre, je raconte plein d'exemples. Quand j'étais enfant, je suis parti en colonie de vacances. Mes parents avaient des graves problèmes. Je suis parti pour 2 mois. Moi, je suis hypersensible. C'était le cauchemar. J'ai pas bougé du fond, un endroit du quart. Et après, je ne bougeais pas. Je ne disais rien. Je ne parlais à personne. Puis un jour... Le moniteur me dit d'aller nourrir. Il y avait des ânes au fond du terrain. Je vais voir l'âne. J'ai aucune envie. Je traîne les pieds. Vous avez comme un adolescent qui a pas du tout envie de faire les choses. Et puis l'âne me regarde. En fait, puis il me propose de donner à manger le moniteur à l'âne. Et j'ai créé un lien tellement fort avec cet âne.
Ouais.
Et puis j'avais un peu oublié en écrivant. Je me suis souvenu qu'un jour plus tard, je jouais avec tous les garçons.
Ça avait été le déclic, quoi.
Ça a été le déclic. Et donc il y a plein de moments, souvent un peu magiques comme ça, de lien.
On parlait de la magie de l'ordinaire.
Oui.
Des choses simples, en fait.
Parce que il y a que l'ordinaire dans nos vies. Donc ce que je voudrais montrer, c'est que dans l'ordinaire, il y a de la magie. Les gens ont l'impression qu'il faut quitter l'ordinaire pour trouver quelque chose d'un peu hors sol.
Donc il y a de l'extraordinaire dans l'ordinaire.
Il y a de l'extraordinaire dans l'ordinaire. J'avais un ami cuisinier qui me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire comme livre? Je lui dis, je vais faire un livre qui s'appelle La magie de l'ordinaire. Il m'a dit, moi ça m'intéresse pas, moi je cherche que l'extraordinaire. Mais je lui dis, mais non, c'est pas vrai, tu peux trouver l'extraordinaire qu'à partir de l'ordinaire. Parce que il fait un plat avec des carottes absolument extraordinaire, mais tu pars des carottes.
Oui.
Tu vois la magie qu'il y a dans une carotte pour pouvoir la transformer. Et moi, la carotte, ça m'emmerde. J'ai aucune envie d'imaginer les carottes. Mais toi, comment tu l'as fait? C'est absolument sublime.
Sublimer le quotidien et les choses simples.
Oui,
on est trop exigeant, d'après vous, en fait? Ou on se met trop de pression?
Ah oui, c'est ce que j'avais dit dans Foutez-vous la paix, il faut se foutre la paix. On veut trop bien faire. Moi, je parlais hier avec quelqu'un qui disait qu'il avait fait un burn-out. Et il sentait coupable. Parce que c'est ça le drame aujourd'hui, c'est les gens font un burn-out et se sentent coupables, ils ont l'impression de ne pas en faire assez. Et je disais, mais en fait, vous avez fait un burn-out parce que vous voulez trop bien faire. Vous voulez tellement répondre à toutes les injonctions qu'à un moment, vous n'êtes plus écouté. Et là, il s'est arrêté, mais il avait presque les larmes aux yeux de sentir qu'il n'était pas en faute. Et au fond, un peu tous mes livres essayent de déculpabiliser les gens, parce que vous avez raison, à la fois... On se met la pression parce qu'on croit qu'on devrait être parfait, mais un être humain n'est pas un être humain parfait. Et puis...
Nous met la pression aussi.
La société nous met la pression, et donc il faut trouver un peu de liberté pour trouver la magie de l'ordinaire.
C'est justement dans ce livre, La magie de l'ordinaire, vous parlez aussi de la capacité à savoir se laisser toucher par les compliments.
Oui.
C'est pas facile.
Pas du tout.
C'est comme les cadeaux, il y a ceux qui savent les faire, mais pas les recevoir, les compliments.
Oui.
Et comment on fait? Je vous trouve très chic ce matin.
Je me souviens, j'allais dans un café, je dis au serveur, vous êtes vraiment formidable. Il dit, non, mais pas du tout. Puis, à un moment, il fait une goutte d'eau sur la table. Il dit, voyez, je suis vraiment pas très bon. Mais je dis, mais si, c'est pas pour autant. La manière dont vous êtes tellement souriant, dont vous m'avez accueilli, ça me met de bonne humeur. Et je me suis beaucoup interrogé, mais pourquoi on a tellement de mal? On a l'impression qu'on nous veut quelque chose, qu'on le mérite pas. Et moi, je trouve ça un petit exercice tout simple. Quand quelqu'un nous fait un compliment, d'essayer de sentir que la personne nous dit merci pour de bon. Et très souvent, les gens sont contents.
Oui, c'est sincère, ce qu'on a pu faire.
C'est sincère, on a l'impression qu'on n'a pas le droit. Et je trouve que ça témoigne bien aussi du fait qu'on a beaucoup de mal à avoir confiance en soi, et avoir juste un peu d'affection pour soi. Et je crois que c'est très important.
En fait, il faut s'accepter, même si on n'est pas complètement d'accord avec la tête qu'on voit quand on se regarde dans la glace le matin au réveil, il faut dire oui. Si, ça va être bien quand même, c'est ça.
Et s'accepter, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas progresser. Mais j'accepte que là, aujourd'hui, je suis comme ça. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est en m'acceptant qu'on peut se transformer. Prenons un exemple. Si on veut perdre du poids, et plus je me dis « Ah, c'est vraiment horrible, regarde comme je suis trop gros, il faut vraiment que je maigrisse », moins ça marche. On le sait, plein d'études l'ont montré. Vous vous sentez de plus en plus mal, et donc vous vous privez, et donc vous craquez. Alors que si vous commencez par « Voilà, j'ai un problème de poids, j'accepte, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je sens ?» On voit qu'on arrive beaucoup plus à mettre des changements. Et donc, vous voyez, c'est pas en se torturant et en se faisant du mal qu'on peut progresser, avancer, être au service du bien commun. C'est au contraire en essayant d'avoir un peu de bonté envers soi-même.
Bon, Fabrice Midel, vous restez avec nous. Dans un tout petit instant, on va passer en cuisine avec le chef Lignac. Bonjour Cyril.
Et bonjour.
C'est pas des carottes, c'est
non,
du thion.
Non, c'est pas des carottes, c'est du thion. Et c'est juste après ça, tout de suite.
RTL Matin, c'est jusqu'à 10h.
Si vous aimez la qualité, essayez-la à prix discount. Ben oui, chez Aldi, nos cerises Origine France sont tout d'une très bonne cerise. Sucrées et irrésistibles, elles autorisent certains amusements comme «
Les enfants, papa, des cerises en boucle d'oreille, c'est cool, non ?»
Oui, vraiment, nos cerises ont tout d'une très bonne cerise, mais à prix discount. 3,49€ la barquette de 500 grammes au lieu de 4,99€. Aldi, la meilleure qualité, à prix discount. En ce moment chez Aldi, soit 30% de remise immédiate, 6,98€ le kilo versus 9,98€. Offre valable jusqu'au samedi 14 juin, info sur aldi.fr.
Audi, sans compromis. En ce moment, le meilleur du design et de la technologie Audi hybride rechargeable est plus accessible que jamais. Jusqu'au 30 juin, découvrez la nouvelle A5 Avent ou encore la nouvelle A3 Sportback à partir de 390€ par mois sans apport. Et profitez de son autonomie totale de plus de 900 km. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre en LLD réservée aux particuliers sur 37 mois et 30 000 km dans le réseau participant sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
Aujourd'hui chez Brico Dépôt, la mallette d'outillage trolley est à un prix imbattable. Le cadeau idéal pour la fête des pères, alors pas de temps à perdre. Marco ?
Aujourd'hui chez Brico Dépôt, la mallette trolley Magnusson est à 99,90€. Oui, 99,90€, la mallette avec 127 outils, ultra complète et facile à transporter. Alors pour la fête des pères, donnez du boulot à papa. Hein. Par contre, il n'y a que 3400 pièces disponibles en France, alors faites vite ! Plus d'infos en dépôt ou sur bricodépôt.fr. Et si vous avez le temps, j'ai un robinet qui fuit, moi.
Brico Dépôt. Wow. Voyez plus grand avec nos prix dépôt.
Carrefour, avec 50€ de remise immédiate, la machine multi-boisson Krupp Spicolo XS Dolce Gusto, qui vous permet de réaliser plus de 45 boissons, est à 29,99€ au lieu de 79,99€. Alors rendez-vous jusqu'au 22 juin chez Carrefour, Carrefour Market et sur carrefour.fr. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Quantité limitée à 8000 pièces, référence YY5131FD, garantie légale 2 ans, détails sur carrefour.fr.
Gaston est maçon et dans son métier, il est béton. Mais ce qu'il déteste par-dessus tout, c'est de rester le dos au mur. C'est pourquoi Fiat Professional garantit sa gamme jusqu'à 160 000 km ou 8 ans. Et comme il ne souhaite pas non plus que son budget lui coûte des briques, Fiat Ducato, la référence des utilitaires, est toujours à partir de 25 900 euros hors taxe.
Si vous avez besoin aujourd'hui d'un fourgon avec son réseau dédié, Fiat Professional est la solution. Offre pour Ducato MH1, 3 tonnes, 120 chevaux, valable professionnel dans le réseau participant jusqu'au 30 juin. Détails sur fiatprofessionnel.fr.
Fiat Professional, professionnel comme vous.
RTL Matin avec Thomas Soto et Amandine Bégaud, 7h-10h.
On est ensemble jusqu'à 10h, journée spéciale bien-être sur RTL. Et s'il y en a un qui sait nous faire du bien et donner du bonheur aux gens, c'est bien notre chef Cyril Lignac. Fabrice Midal est resté avec nous et vous nous préparez ce matin un thion de légumes.
Des légumes. Alors on parlait juste avant des carottes.
De Jérôme Banquetel, j'ai oublié de dire que, c'est, voilà. Que les carottes extraordinaires, c'est Jérôme Banquetel du Gabriel qui les travaille à la chaux et puis transforme ces carottes qui, moi, m'intéressent pas trop manger des carottes qui deviennent extraordinaires et ils transforment l'ordinaire en magie.
Alors, c'est la joie de la cuisine.
D'autres légumes.
Eh ben, on va rester dans la thématique, bien dans sa tête, bien dans son corps, parce que le thion de légumes, c'est très bon pour la santé, c'est délicieux, et puis c'est surtout les légumes de saison.
On prend quoi comme légumes, pardon ?
Alors, déjà, juste le mot thion, c'est assez amusant.
C'est la Provence.
Le thion, c'est un mot provençal qui signifie poil ou plat de cuisson.
Poil ?
Ah, exactement.
Poil, oui, poil. Non, pas le poil.
Excusez-moi.
C'est vrai que vous êtes tellement loin de la cuisine.
Qu'est-ce qui se passe dans ma tête?
Donc, le mot tient désigne le récipient en terre cuite qui est utilisé, qui était utilisé pour la cuisson. Alors, bien entendu, maintenant, on le met dans un plat à gratin. Mais c'était vraiment l'histoire de la vieille cuisine paysanne. Une recette dans laquelle on utilise les légumes du potager en été. Donc, les courgettes, les aubergines, les tomates, parfois des poivrons, et puis un petit peu d'herbe de Provence. Alors, dans les recettes, on parle de herbe de Provence. Et aujourd'hui, vous savez que les herbes de Provence, ça vient de tout sauf de la Provence.
Et alors, on prend quoi ?
Donc, moi, je préfère mettre du basilic frais ou du romarin, où on sait d'où ça pousse.
Et c'est un plat anti-gaspi aussi.
Exactement, parce qu'on peut utiliser les légumes qui sont trop mûrs. Et le concept, c'est de les cuire lentement, un peu compotés, confits. Et c'est comme ça que c'est bon.
Bon, comment on fait alors? Comment on fait un bon tian? On coupe en rondelles.
Exactement.
On met de l'huile d'olive au four et c'est réglé.
Ouais, un peu, presque ça. Ouais. Déjà, on fait une bonne sauce tomate. On prend les tomates du jardin ou les tomates qui sont un peu gâtées, un peu trop mûres, que l'on d'habitude on fait une belle salade de tomates. Ben là, on va les garder. On fait la sauce tomate. Donc là, on va prendre dans une poêle, on met des oignons, bien entendu de l'huile d'olive, de l'ail écrasé. On ajoute les tomates. Mm-hmm. Alors, il y a deux écoles. Soit on les passe dans de l'eau, on les ébouillante pour les éplucher, pour pas avoir la peau. Soit on met tout dedans, on passe à la moulinette. Ma mère, elle faisait comme ça. Ouais. Et comme ça, on a vraiment la quintessence de la tomate. Ensuite, on va le laisser cuire tranquillement, mijoter pendant 20 bonnes minutes. Et
Que les tomates, d'accord.
D'abord, on fait la sauce tomate. Ensuite, on va couper les aubergines, les courgettes. Alors, moi, j'utilise...